Bonsoir à tous, bienvenue ce soir encore. Effectivement, on a déjà parlé ensemble de ce que l'on pouvait dire en rapport avec cette question « À quoi sert le christianisme ?» Et nous allons continuer dans les conférences qui vont venir. Cependant, il est évident que si on veut poser les bases du christianisme, retourner à ce christianisme efficace dont on a parlé pour commencer, il faudra parler du Christ, du christianisme. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, de regarder qui il est, ce qu'il a fait, à quoi correspond son action dans le monde et pour nous aujourd'hui, parce que le Christ est venu il y a déjà pas mal de temps. Quel impact a-t-il eu? Quel impact a-t-il encore aujourd'hui? Et qu'est-ce que sa vie a été? Maintenant, le Christ, on en a fait toutes sortes de choses. Jésus, c'est un petet peu un mets que l'on a accommodé chacun à la sauce qu'on avait envie d'avoir et à la sauce par laquelle on voulait le manger. On en a fait une superstar, on en a fait une idole de pierre qui bénit les villes, on en a fait aussi le mari de Marie-Madeleine, une histoire rocambolesque, un roman, une histoire pour vendre un livre. On en a fait un tas de choses de Jésus. Et je ne donne là que quelques exemples parce que ce qu'on a fait de Jésus, c'est une foule de choses. Et c'est un petit peu comme si on avait voulu faire un Dieu à notre mesure, se construire un Dieu qui nous plaît, qui nous arrange, et qui répond à nos critères à nous. Ainsi, la question est plutôt de savoir véritablement qui il est. Le Jésus, le Christ du christianisme, qui est-il? Du christianisme biblique. Alors, bien entendu, je vais encore vous dire ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que, pour moi, la source, la seule source valable d'indication et d'information concernant Jésus, on la trouvera dans les Saintes Écritures. C'est à mon avis la seule source fiable de renseignement en ce qui concerne Jésus le Christ. Oh, je sais, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui, on en écrira encore, on fera des films, on racontera toutes sortes de choses sur lui, mais si l'on veut savoir qui est le Christ du christianisme, c'est dans les Écritures qu'il faudra aller. De la même manière, vous vous souvenez, lors de la première conférence, on parlait de christianisme et christianisme, comme s'il y avait effectivement deux christianismes, celui que les hommes ont fabriqué avec le temps, qu'ils ont construit à leur image, selon leurs besoins, qui est un christianisme qui s'est érodé, qui s'est usé, qui s'est transformé, et qui, selon certains auteurs, était finalement arrivé à l'inverse de ce que les Écritures nous demandaient. Et puis d'un autre côté, le christianisme des origines, le christianisme de Christ. De la même manière, je crois qu'il y a le Christ de la Bible et puis le Christ que beaucoup de gens ont conçu selon leur envie. Donc la source principale, la source essentielle de notre connaissance de Jésus sera les Écritures, sa parole. D'ailleurs, Jésus avait dit en parlant à ses contemporains, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus lui-même rendait témoignage du fait que si l'on veut apprendre à le connaître, c'est dans les Écritures qu'il faut aller. Et ceux qui y vont et qui le cherchent ne sont parfois même pas capables de recevoir le Christ qui y est décrit. C'est dire à quel point parfois nous sommes réticents ou durs à recevoir le Christ et à le comprendre. Maintenant, l'histoire a donné aussi des témoignages concernant la personne de Jésus. Jésus n'est pas un personnage qui n'est connu que par les Écritures, et ainsi certaines personnes pourraient dire « Ah oui, mais ça c'est une invention de ces gens qui ont écrit la Bible, l'histoire, non, Christ n'a jamais existé. » Eh bien non, il y a dans l'histoire plusieurs écrivains de cette époque-là qui ont parlé de Jésus de plusieurs manières. Vous me permettrez de passer très rapidement parce qu'ils ne sont pas ma source d'information première, bien entendu, mais j'aimerais simplement en mentionner deux en passant très rapidement. Le premier, c'est Flavius Joseph, un historien romain d'origine juive qui a vécu au 1er siècle et qui était romain et qui est un juif un peu particulier parce qu'il était vraiment parti du côté des Romains. Il était romain, il a fonctionné avec les Romains, mais il avait l'avantage d'être juif et donc de parler de son propre peuple avec une connaissance de l'arrière-plan qu'il y avait. Maintenant, je sais que ces écrits sont contestés, mais encore une fois, ceux qui le contestent sont ceux qui sont frappés par la similitude extraordinaire qu'il y a entre le témoignage de Flavius Joseph et des Écritures. Et certains ont dit « Ah, c'est impossible que quelqu'un à cette époque ait écrit quelque chose qui soit si semblable aux Écritures. » Si ça vous paraît une objection valable, c'est bien, mais en ce qui me concerne, beaucoup d'historiens ont étudié ces écrits et ont reconnu qu'il y a moyen de trouver le texte fondamental de Flavius Joseph au travers parfois de traductions. Mais il s'exprime dans son livre « Les Antiquités juives » et il dit ceci. « Vers le même temps survint Jésus, habile homme, si du moins il faut le dire homme. Il était en effet faiseur de prodiges et maître de ceux qui reçoivent avec plaisir les choses anormales. » Pensez donc au miracle. Il se gagna beaucoup de juifs et aussi beaucoup du monde hellénistique, donc du monde grec. C'était lui, le Christ. Et Pilate, l'ayant condamné à la croix, selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qui avaient été satisfaits au début ne cessèrent pas. Il leur apparut en effet le troisième jour, vivant à nouveau, les divins prophètes ayant prédit ces choses étonnantes et 10 000 autres merveilles à son sujet. Et jusqu'à présent, l'engeance des chrétiens, dénommée d'après celui-ci, n'a pas disparu. Alors, au travers de ce langage, vous reconnaissez qu'il alla analyser la vie de Jésus d'une façon intéressante. Lui qui est juif reconnaît que c'est un homme qui est tout à fait différent des autres. Et il dit dans son texte, le Christ, c'est lui. Ce que beaucoup de ses contemporains n'avaient pas conçu, en tout cas accepté. Et il mentionne encore que les chrétiens, dénommés d'après lui, continuent à grandir et à fonctionner à l'heure où il écrit lui-même, c'est-à-dire Jésus étant mort depuis déjà un moment. Donc c'est un témoignage d'un historien de l'époque dont nous avons les écrits et qui mentionne Jésus. Un autre, Pline le Jeune, qui a écrit aux alentours de l'année 112, au cours d'une lettre qu'il envoyait à l'empereur, a dit cette phrase un petit peu bizarre et énigmatique. « Toutes leurs fautes et toutes leurs erreurs, ont-ils confessé, s'étant bornés à se réunir habituellement à date fixe, avant le lever du jour, et à chanter entre eux un hymne à Christ comme à un Dieu. » Donc cet auteur-là reconnaît, cet auteur romain reconnaît que les chrétiens célèbrent le Christ comme étant leur Dieu. Effectivement, encore un auteur de cette époque qui rend témoignage à l'historicité de Jésus. Je passe rapidement, il y en a d'autres, ce n'est pas notre propos essentiel ce soir. Mon propos, c'est d'aller chercher dans les Écritures le témoignage des disciples de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a inspiré comme témoignage concernant Jésus? Alors, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi ce soir le témoignage de l'un d'entre eux, Matthieu, que nous trouvons dans le premier des 4 évangiles. On pourrait penser que les évangiles ont été écrits comme une belle histoire à raconter aux enfants le soir pour les endormir. Alors vous lisez ça comme une histoire, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Je crois qu'en analysant les évangiles d'une façon un petit peu plus détaillée, on se rend compte que le texte des évangiles est extrêmement structuré. Il n'est pas écrit comme ça au hasard du souvenir des évangélistes qui l'ont écrit. Je crois que Dieu a inspiré ces écrits, et d'ailleurs, quand on le regarde, on les trouve extrêmement structurés. Ce ne sont pas des histoires qui sont mises les unes comme ça en vrac, dans lesquelles vous allez chercher et sortir celle qui vous convient aujourd'hui et puis une autre demain. Le témoignage de Matthieu dans les évangiles est extrêmement structuré parce qu'il a un message très clair à donner concernant son maître, Jésus. Alors j'aimerais regarder avec vous ce témoignage de Matthieu qui se trouve dans le chapitre 8 et 9 de son évangile. Maintenant, ce que l'on connaît bien de l'évangile de Matthieu en particulier, que l'on retrouve en partie dans les autres, c'est ce que l'on va appeler le sermon sur la montagne. Il y a dans l'évangile selon Matthieu 5 prédications de Jésus. Elles sont rapportées à différents moments de l'évangile. Le sermon sur la montagne représentant le premier des sermons de Jésus qui est rapporté par l'évangéliste Matthieu. Le deuxième va se trouver au chapitre 10, qui sera le discours missionnaire de Jésus. L'évangile va rapporter le sermon sur la montagne qui va se terminer au chapitre 7. Et puis, il y a un espace qui va s'établir entre ce premier discours qui se termine et le discours suivant du chapitre 10, qui est un discours missionnaire dans lequel Jésus parle de la mission qu'il invite ses disciples à remplir. Qu'est-ce que Matthieu va dire entre deux? Eh bien, entre deux, dans les chapitres en particulier 8 et 9, Matthieu va apporter son témoignage concernant Jésus. Jésus a parlé, Jésus est venu, Jésus commence à prêcher, mais maintenant il va falloir dire qui est ce Jésus, qui est-il, que fait-il? Matthieu va définir ça d'une façon très claire. Et il va le faire dans le chapitre 8 et 9 avec trois séries de trois miracles chacune. Dans la première série, on va voir la guérison d'un lépreux, la guérison du serviteur du centenier et la guérison de la belle-mère de Pierre. Trois miracles qui sont racontés ensemble, l'un après l'autre en séquence. Et puis, il y a ensuite une deuxième série qui vient juste après. C'est le miracle dans lequel Jésus va calmer la tempête, guérir deux démoniaques et guérir un paralysé. Puis va venir une troisième série de trois miracles aussi. La résurrection de la fille de Jaïrus, la guérison de deux aveugles et la guérison d'un muet qui est aussi démoniaque. Trois fois trois miracles structurés dans ces deux chapitres, d'une façon très claire. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, j'aimerais extraire pour vous le message que Matthieu y a placé. Trois fois trois miracles pour nous dire qui est Jésus, que fait-il, quelle est son identité, quel est son ministère. Et au milieu de ces trois séries de trois miracles, Matthieu va y introduire d'une façon très courte et très simple son propre témoignage. Il le place là d'une manière extraordinairement sobre, mais à mon avis, très puissante. J'aimerais simplement ce soir avec vous regarder ces miracles rapidement pour comprendre ce que Matthieu a à nous dire sur la personne de Jésus. Vous êtes prêts? On y va? Ok. Premier miracle de cette première série. Donc souvenez-vous, il y en a 9, 3 fois 3. Le premier miracle nous est rapporté donc au chapitre 8. Dès les premiers versets, il est dit « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus, semble-t-il, n'avait pas encore guéri de lépreux. Il semble qu'il s'agisse du premier lépreux que Jésus guérit. Et il y a là dans l'attitude de cet homme quelque chose que je trouve intéressant et touchant. Il va véritablement mettre la pression sur le Christ et lui dire « Si tu le veux, tu peux. » Bon, si quelqu'un vous approche et vous dit ça, vous êtes coincé, les amis. Ce qui veut dire que si je n'ai pas ce que je te demande, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu ne veux pas. Et pourquoi ne voudrais-tu pas? Ça, c'est une manière que je trouve très, très forte, marquée d'une insistance de foi et de confiance incroyable dans cet homme. Pour lui, Jésus est celui qui peut. Et puisqu'il peut, il faut que je trouve le moyen qu'il veuille. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et je trouve extraordinaire la manière dont Jésus lui répond. Jésus va jouer le jeu. Jésus va lui dire « Je le veux ». C'est la volonté du Christ que les hommes soient guéris de leur maladie. Et cet homme va trouver de nouveau la santé, il va être restauré dans sa vie physique. Maintenant, je trouve ici une histoire intéressante parce que vous vous souvenez que les lépreux faisaient partie de cette différente catégorie de gens que nous allons voir d'ailleurs et qui étaient rejetés par cette société-là. Ces gens étaient maudits de Dieu, à leur avis, et par conséquent n'avaient plus rien à faire avec eux. Ils étaient à l'extérieur, ils sortaient des villes et des villages, ils s'installaient à l'extérieur, et ils étaient là, campés dans des bidonvilles, jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce sont des gens qui, à cause de cette impureté, ne pouvaient pas aller au temple. Or, pour le juif, ne pas aller au temple, c'était véritablement être coupé totalement de Dieu. Non seulement ils étaient coupés des hommes, mais ne pouvant aller au temple, ils étaient coupés de Dieu. Ces gens se trouvaient là dans une situation sans solution parce qu'ils étaient véritablement coupés de la seule source de réconfort et de guérison possible. Cet homme s'approche de Jésus. Il ne peut aller au temple. Il est considéré comme un impur, comme un rejeté, comme un moins que rien. Il est banni de la société. Et il vient et dit à Jésus, si tu veux, tu peux. Et Jésus dit, comment ? Je veux, sois pur. Et cet homme est purifié. Le deuxième miracle, c'est la guérison du serviteur du centenier. Dans le même chapitre, au verset 5 à 13, en partie, il est dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et vous savez que Jésus a été étonné de la parole de cet homme. Cet homme était un militaire, un soldat, qui lui dit, « Maître, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Moi, je suis un soldat, un centenier. J'ai des hommes sous mes ordres. Quand je dis un soldat, fais ci, il le fait. Fais ça, il le fait. Toi, il te suffit de dire un mot. Mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a manifesté de l'étonnement envers cet homme qui est un Romain, c'est-à-dire un occupant, un païen d'origine, et qui s'adresse à Jésus avec une foi supérieure aux gens de son propre peuple. Maintenant, c'est curieux de voir un Romain agir de la sorte, parce que, bon, les serviteurs, les esclaves, c'est de la marchandise, c'est des machines que l'on utilise pour faire le travail. Cet homme-là, un souci pour son serviteur, il voudrait que son serviteur soit guéri. C'est curieux parce que un soldat, un militaire, une tête brûlée, une tête dure, sans sentiment, les Romains étaient connus pour ça d'ailleurs, les soldats en particulier, les légionnaires. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en peine du serviteur. Il meurt, on va en acheter un autre, c'est pas difficile. C'est comme un outil, le marteau, le manche casse, on va chercher un autre. On va pas réparer ça, on débarrasse. On achète un autre, tout simplement. Non, non, lui, il est soucieux de ce serviteur qui est malade et il va demander à Jésus, un juif, de le guérir. Et il va dire à Jésus, tu as le pouvoir de le guérir. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Dis un mot, ça suffit. Une foi extraordinaire, qui va être mise à l'épreuve d'ailleurs parce que en chemin, il va rencontrer des gens, il va y avoir toutes sortes d'événements qui vont se produire, mais un peu plus loin dans le texte, il est dit, puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Remarquez ici qu'on a affaire à une catégorie de gens qui n'ont pas non plus droit au temple. C'est un Romain, c'est un païen, pas accès au temple. Il n'a donc pas accès à Dieu non plus dans le contexte de l'époque. Son serviteur, un esclave, encore moins. Où l'a-t-il pris? Je ne sais pas. L'a-t-il amené avec lui dans ses bagages, cet esclave? On ne sait pas. L'a-t-il pris sur place? On ne sait pas non plus. Mais c'est un esclave, c'est un serviteur, c'est pas grand-chose. Ce sont des gens qui n'ont pas accès au temple non plus. Le lépreux n'a pas accès au temple dont on parlait tout à l'heure. Ce païen non plus n'a pas accès au temple. À la limite, Dieu n'est pas pour lui dans la mentalité de l'époque. Surtout un occupant, un grand méchant comme ça que l'on veut à tout prix déjà mettre dehors depuis longtemps. Pas accès au temple, pas accès à Dieu. Dieu n'est pas pour toi. Et Jésus, lui, va s'approcher de cet homme. Il va aller jusqu'à guérir son serviteur. C'est dire à quel point pour l'entourage, Jésus va s'approcher des inapprochables, va s'approcher des impurs, des rejetés, des non-touchables, de ceux qui n'ont pas accès à Dieu et à qui on ne veut pas donner accès à Dieu. Un lépreux, un non-juif. Troisième miracle. Vient juste après la guérison de la belle-mère de Pierre. Il nous est dit, à la fin de la journée, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et les servit. À la fin de cette journée-là, Jésus va chez Pierre, l'un de ses disciples, qui était marié. Sa belle-mère est là, elle est malade. Et vous savez qu'à cette époque, comme encore longtemps après, la maladie est souvent sans remède. On est malade et puis on attend pour savoir ou bien on va guérir ou bien on ne va pas guérir. C'est à savoir, c'est le temps qui va décider. La belle-mère de Pierre est malade. Et Jésus va s'approcher, il va la toucher. Et cette femme va être guérie immédiatement, elle va se lever, elle va les servir. Encore une fois, remarquez une chose ici, c'est que Jésus va guérir une personne qui n'a pas accès au temple. Les femmes n'ont pas accès au temple. Ce sont les hommes seulement, en tant que représentants de la famille. Mais nous ne savons pas si cette femme a un mari. Elle habite chez sa fille. Elle n'a peut-être pas de mari. Une femme qui n'a pas de mari n'a pas accès au temple, puisque c'est par son mari qu'elle a accès à Dieu. Jésus est en train ici de toucher des personnes qui sont rejetées, qui ont été mises à l'écart de la société, des personnes qui n'ont pas contact avec Dieu, dont on a supprimé la possibilité d'avoir contact avec Dieu, les rejeter. Un lépreux, un païen, une femme. Jésus s'approche de ces personnes, les guérit. Jésus ici est présenté d'une façon bien particulière. Jésus est présenté comme celui dont la puissance et l'amour est pour tous. Car son sacrifice, dans son sacrifice, il a porté nos souffrances. D'ailleurs, Matthieu, dans la conclusion qu'il tire à cette première série, va donner un texte qui se trouve en réalité dans le prophète Ésaïe, qu'il va citer en disant « Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu ici prend quelque chose, un texte qui est particulièrement intéressant, où il est dit dans l'Ancien Testament, « Il s'est chargé de nos maladies. » Il présente ici le Christ qui prend en charge la souffrance, la maladie, la misère de ceux qui, dans la société où ils sont, n'ont pas la possibilité de les apporter et de les donner à Dieu. Jésus vient et il les prend. Il les prend d'un lépreux coupé du temple. Il les prend d'un païen coupé du temple. Il les prend d'une femme coupée du temple. Il va tout près de ceux qui ont été coupés de Dieu et lui, il les approche. Et lui, il les guérit. il leur montre la puissance de son amour. D'où vient-elle? Matthieu dit, c'est parce qu'il a porté, lui, les souffrances de ces gens. Il les a prises, lui. Ils en ont donc été libérés. On découvre déjà ici, dans la vie de Jésus, quelque chose de très important. Jésus va guérir des gens, que dans le contexte on considère comme non guérissables, comme des gens qui n'ont pas une grande importance. Ces gens-là, Jésus va les guérir, mais il y a un prix à ça. Le prix, c'est celui que lui a payé en prenant ses souffrances, en prenant ses maladies et en les portant lui. C'est lui qui les prend. Et là, on découvre un aspect du Christ que Matthieu veut souligner. Jésus est prêt à offrir sa grâce, sa force et sa puissance à ceux qui, en fait, ne sont pas disponibles à cette grâce et à cette puissance. On peut fermer la porte, là, s'il vous plaît. Deuxième série. La deuxième série commence par une promenade en bateau sur le lac. Promenade en bateau sur le lac qui commence très bien, qui est très calme, qui est très paisible. On va traverser le lac qui est en réalité le lac de Galilée pour aller de l'autre côté, c'est le soir. Les disciples rament et Jésus est fatigué. Jésus s'installe au fond du bateau et il dort. Et puis, pendant que Jésus dort, il nous est dit dans le texte, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Ils avaient vu Jésus guérir des malades, ils avaient vu Jésus guérir des impotents, des lépreux, guérir la belle-mère de Pierre. Ils avaient vu Jésus s'approcher de ceux qui étaient en souffrance. Et là, ils vont découvrir quelque chose de différent. Une grosse tempête et Jésus dort. Jésus dormait au fond du bateau. Il a fallu que les disciples le réveillent. Jésus était fatigué. Et lorsque les disciples réveillent Jésus, pour eux, dans leur tête, c'est trop tard humainement. Sauve-nous, nous périssons. Ils vont réveiller Jésus en disant, écoute, maintenant, on a fait nous tout ce qu'on pouvait, c'est fini. Fais quelque chose. Et la réponse de Jésus est intéressante. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Comme si le fait d'avoir Jésus dans son bateau était suffisant pour que les disciples soient en parfaite sécurité. Il dit, mais enfin, pourquoi vous avez peur? Est-ce que je ne suis pas là? Ah, je trouve cette réponse extraordinaire. Pour Jésus, c'est évident. Il est là. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de craindre? Maintenant, Jésus va se lever. Il va menacer la mer, les flots, et y avoir un grand calme. De la même manière que paniqués, ils appellent Jésus pour qu'il se passe quelque chose, ils sont encore plus étonnés de voir qu'effectivement, il se passe quelque chose. Ils sont encore plus étonnés de voir qu'effectivement, Jésus est capable d'arrêter ça. Et c'est là la force de ce miracle, parce qu'ils sortent de là et se disent, mais qui est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? C'est un miracle qu'il n'avait jamais vu. Jésus alla manifester une capacité particulière. La capacité en particulier de dominer sur les éléments. Et nous allons en reparler dans un instant. Gardez ça en réserve dans votre esprit. C'est le premier de la miracle de la deuxième série. Le deuxième miracle, c'est la guérison de deux démoniaques qui suit immédiatement dans le texte. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortirent des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Alors, j'aimerais regarder ça un instant avec vous. La tempête est calmée. Ils continuent leur voyage sur une mer d'huile. Ils arrivent de l'autre côté. Et le lendemain, ils sont accueillis à la sortie du bateau par deux démoniaques. D'autres évangiles nous racontent avec d'autres détails cet événement-là et nous montrent que l'accueil n'a pas été extrêmement chaleureux. Maintenant, vous pouvez imaginer les disciples qui sortent là et qui se trouvent confrontés à deux démoniaques fous qui les accueillent. L'évangile nous dit qu'ils vivaient dans les sépulcres, qu'on avait essayé de les lier, qu'on n'arrivait pas à les lier, qui cassaient les chaînes. Des fous à lier, non liables. Et Jésus va au-devant d'eux. Vous pensez que les disciples sont derrière, là? Moi, je crois que les disciples, ils sont partis dans les fourrés, ils sont restés près du bateau, une rame en main, prêts à faire ce qu'il fallait pour prendre le large. Et vous avez Jésus qui avance gentiment vers ces démoniaques. On entend par démoniaque des gens qui sont possédés par des démons, par des agents du diable. Mais maintenant, là, il y a quelque chose qui me frappe. Mes amis, Jésus vient dans sa nation. Quand je dis sa nation, c'est-à-dire le peuple à qui lui-même a parlé par les prophètes avant de s'incarner, à qui il a annoncé sa venue par les prophéties, à qui il a envoyé ses oracles par les prophètes pendant des milliers d'années. Et quand il vient, le texte nous l'avons vu tout à l'heure, il cherche dans les Écritures et ils sont incapables de le recevoir. Son propre peuple, ceux qui connaissent les Écritures par cœur. Et il y avait à cette époque des gens qui étaient capables de réciter le Deutéronome entièrement. Les jeunes, les enfants en particulier, apprenaient le Deutéronome de A à Z par cœur. Ils ne vont pas recevoir Jésus. Jésus va essayer de leur dire à maintes reprises qui il est. Et quand il va leur dire, la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est prendre des pierres pour le lapider. Jésus ici a affaire à des démons qui ont possédé des êtres humains. Et incroyable, les démons, eux, savent qui est Jésus, même si le peuple de Dieu ne le sait pas. Les démons vont dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Aucun être humain juif n'a été capable de dire ça du temps de Jésus. Oui, les disciples. Il faut que ce soit les démons qui disent qui est Jésus. Et je me pose la question encore pour aujourd'hui. Les Écritures sont claires. Elles sont tout aussi claires aujourd'hui que du temps de Jésus, et plus encore parce que le Nouveau Testament y a été ajouté. Faudra-t-il que ce soit les démons qui nous disent qui est le Christ pour qu'on finisse par le croire? L'histoire continue. Il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Mes amis, là, cette histoire, elle est incompréhensible. Il faut que ce soit déjà les démons qui disent qui est véritablement celui qui est là et qui guérit cet homme. Les démons sont capables de dire haut et fort, c'est le Fils de Dieu. Les hommes ne le sont pas. Et qui plus est, lorsque Jésus guérit cet homme, que cet homme revient habillé et que le village retrouve cet homme dans son bon sens, guéri et saint d'esprit, ils arrivent et disent non, écoute, pars vite d'ici, on ne veut surtout pas que tu touches à l'état des choses. Le statu quo sera permanent, ne change rien. Ne guéris pas les malades, ne guéris pas les fous. Ne fais rien, ne touche rien, ne change rien. Laisse tout comme ça s'écouler dans le béton pour toujours et toujours. Va-t'en d'ici. On ne veut pas de quelqu'un qui empêche les choses de tourner comme elles ont toujours tourné. Et on ne voudra pas de Jésus. On ne voudra pas de Jésus. Le Jésus, tout à l'heure, dans le miracle précédent, c'était le Jésus qui était capable de calmer la tempête, de tenir les éléments en main. Le Jésus qu'on a ici, c'est le Jésus qui est maintenant capable de parler aux démons et ils obéissent. Et curieusement, les hommes viennent voir Jésus. Et Jésus va leur obéir, parce que Jésus va quitter le territoire. Curieux, étrange, bizarre, celui qui là même peut ordonner aux démons de sortir, obéirait aux hommes qui lui demandent de partir. Le monde à l'envers. Le troisième miracle qui est raconté juste après, c'est la guérison d'un paralysé. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vos cœurs ? Car lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Ça, c'est une histoire aussi curieuse. C'est une histoire incompréhensible pour les gens qui sont là. Parce que Jésus fait encore une fois quelque chose de bizarre. On lui amène un malade, et il ne répond pas à la question qui est posée. Quand on lui amène un malade, qu'est-ce que vous pensez qu'on lui demande ? De le guérir. Bien. Mais dans le texte au début que l'on avait, on lui présente le malade, il est paralysé, et Jésus dit, prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Et là, les Juifs qui sont présents sont en l'air. Comment ça ? De quel droit, dit-il, tes péchés sont pardonnés ? Et Jésus sait ce qu'il pense. Et il va les pousser encore plus loin. C'est la suite du texte où il va leur dire, dites donc, c'est quoi qui est plus simple de dire ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou prends ton lit et marche ? N'importe qui peut dire, tes péchés sont pardonnés. Quelle preuve avons-nous que c'est vrai ? Aucune. Mais là, oui. Parce que Jésus va dire, si je dis tes péchés sont pardonnés et que je le fais par présomption, sans que Dieu soit derrière, pensez-vous que Dieu va m'écouter quand je vais lui demander de guérir ? Sûrement pas. Eh bien maintenant, je vais vous montrer que c'est la volonté de Dieu. Et il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, paralysé, amené sur une civière, se lève et part chez lui. Vous voyez tous les gens qui restent là avec beaucoup de questions. Parce que Jésus semble avoir vu chez cet homme quelque chose que personne ne pouvait voir. c'est qu'il était malade en réalité en conséquence de ses péchés. Et Jésus ne va pas guérir les symptômes pour commencer. Jésus va guérir pour commencer la cause réelle et profonde qui a mis cet homme sur une civière, ses propres péchés. Et c'est une chose que lui seul et cet homme connaissent. Et Jésus va parler à cet homme parce qu'il sait lire dans son cœur. Il va dire, écoute, courage. Le vrai problème, on va s'en occuper maintenant. Tes péchés sont pardonnés. Et parce que tes péchés sont pardonnés, maintenant lève-toi et marche. Devant tout le monde, Jésus a montré que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais qui peut pardonner les péchés? Alors là, justement, cette deuxième série nous parle d'une manière très claire. Dans cette deuxième série de miracles que Matthieu raconte, il y a d'abord la tempête qui est apaisée, ensuite il y a les démoniaques qui sont libérés, et maintenant il y a un homme dont les péchés sont pardonnés. Maintenant, il se trouve que dans la littérature juive et dans la compréhension juive des choses, il y a trois choses qui appartiennent uniquement à Dieu et que Dieu est seul et unique capable de faire. Dans leur compréhension, ces trois choses que seul Dieu est capable de faire sont les suivantes. Contrôler les éléments de la nature, chasser les démons et pardonner les péchés. Et ces miracles sont justement rassemblés là parce que Matthieu est en train de dire par son témoignage une chose très claire. Matthieu est en train de dire « Celui qui est devant vous, c'est Dieu lui-même. » Une autre histoire de pardon des péchés est intéressante. Elle n'est pas dans le témoignage de Matthieu, mais permettez que j'ouvre une parenthèse. Pour vous montrer à quel point Jésus, lorsqu'il fait les choses, les fait bien. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme qui a été amenée à Jésus, prise en flagrant délit d'adultère. Cette histoire m'a toujours étonné parce que, autant que je sache, si je me trompe, vous me direz parce que je ne sais pas tout, mais pour commettre adultère, il faut être deux. Et on lui a amené la femme. Je me suis toujours demandé avec qui elle avait commis adultère, est-ce qu'il lui était arrivé à l'autre? Est-ce qu'il avait eu des ailes pour s'envoler? Comment se fait-il qu'on ne le lui a pas amené, lui aussi, à Jésus, pour poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Non, on va lui amener la femme. Et on va le mettre dans le coin en lui posant une question par rapport à la loi de Moïse qui demande de lapider, mais de lapider les deux. Jésus ne répond pas, vous en souvenez. Jésus s'assied et commence à écrire par terre, dans la poussière. Alors j'imagine que pris par la curiosité, tout le monde s'approche pour regarder ce qu'il écrit et on ne s'occupe plus de cette femme qu'on lui a amenée. Il est en train d'écrire par terre. Et Jésus écrit. Et comme il y a du silence, tout le monde essaie de voir ce qu'il écrit. Et le texte nous dit qu'un après l'autre, ils s'en vont. Mais qu'est-ce qu'il a écrit par terre? Je donnerais cher pour le savoir. Je peux l'imaginer. Ces gens ont amené une femme en disant « Qu'est-ce qu'on fait avec une pécheresse comme ça? On lapide ou on lapide pas ?» Je peux imaginer que Jésus a écrit par terre les fautes de ces gens qui l'ont condamné. Et que ces gens, voyant que Jésus est capable d'écrire leurs péchés, c'est aussi qu'eux sont bien encore plus davantage condamnables que cette femme qui a été amenée pour lui tendre un piège. Puis finalement, vous vous souvenez, Jésus va dire, celui qui n'a pas péché, alors qu'il a probablement écrit par terre leur péché, qu'il jette la première pierre. Il n'y a plus personne pour jeter la pierre. Ils sont tous loin. Alors il dit, mais t'as pas été condamnée, ma fille? Et vous pouvez imaginer cette femme qui se cache la face depuis un moment, qui dit non. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus ne se contente pas de passer l'éponge et dire, C'est bien ma fille. Je te pardonne. Non. Jésus ne lui donne pas une licence pour continuer à vivre comme elle a vécu. Jésus a reconnu que cette femme a été piégée. Il reconnaît que cette femme a été forcée dans le mal. Il reconnaît que cette femme est là brisée. Mais il lui dit maintenant que tu es pardonné, arrête. Change de direction. Quand Jésus pardonne, il guérit aussi. Il n'est pas en train de donner le passeport pour continuer à voyager dans le péché partout où on a envie. Il n'est pas en train de donner le laissez-passer pour tous les péchés du monde en disant « Là où le péché abonde, la grâce surabonde, continue. » Non. Jésus lui dit « Maintenant que tu as reçu le pardon, ne pêche plus. » C'est dire à quel point quand Jésus fait les choses, il les fait à fond. Il ne se contente pas de pardonner, il veut restaurer la personne. C'est fantastique ça. C'était donc la deuxième série de miracles que je viens d'évoquer avec vous, dans laquelle Jésus, la puissance de l'amour de Jésus, est présentée comme étant la puissance divine qui pardonne les péchés. Celui que Matthieu présente, depuis les miracles que je vous ai montrés au début. Ce Jésus que Matthieu présente, c'est le Jésus qui est capable de s'approcher de tous ceux qui, dans la compréhension de l'époque, sont coupés de Dieu. Ceux qui n'ont pas accès au temple, pour mille et une raisons. Et ceux qui pensent vraiment que Dieu n'est pas pour eux, Jésus vient et il est pour eux, parce qu'il les guérit. Et puis, le Jésus que Matthieu présente, c'est pas n'importe qui, c'est pas un faiseur de miracles, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas un grand prophète, c'est pas un grand personnage, c'est Dieu lui-même. Il est seul à pouvoir calmer la tempête et tenir les éléments en main. Et c'est la raison pour laquelle ils disent, mais qui est-il donc celui-là? Ils n'osent pas le dire qui il est, mais ils le savent. Il est le seul à tenir les éléments en main, il est le seul à pouvoir chasser des démons et à pouvoir tenir le diable en laisse, il est le seul à pouvoir dire à un homme, et il en est ainsi, tes péchés sont pardonnés. Le Jésus que Matthieu présente ici, ce n'est pas un grand guérisseur, ce n'est pas un grand personnage, c'est Dieu lui-même qui vient et qui touche l'humanité. C'est celui-là même que Matthieu est en train de présenter. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, après avoir dit cela de Jésus, Matthieu apporte son propre témoignage. Un verset dans lequel il dit « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Alors c'est intéressant parce que c'est Matthieu lui-même qui écrit cette histoire et qui inclut son témoignage, je vous le disais tout à l'heure, avec beaucoup de discrétion, là au milieu de son témoignage sur Jésus. Ce que Matthieu est en train de dire, ce Jésus qui a été cherché les séparés de Dieu, moi je l'ai rencontré parce que Matthieu était un péager. Or, un péager, c'est un collaborateur avec l'occupant. C'est un juif qui va travailler pour les Romains pour aller prendre l'argent des juifs et le donner aux Romains et servir un bon paquet en passant. C'est un de ces gens que les juifs haïssaient parce qu'il était l'un des leurs, mais il travaillait pour les autres. L'ennemi occupant. Des gens haïssables, des gens maudits. Des gens pour qui Dieu est absolument exclu. S'il y en a qui sont perdus, ce sont bien les péagers dans la mentalité du temps. Lui aussi, Matthieu, a rencontré le Jésus parce que lui aussi était coupé de Dieu. Lui n'avait pas accès à Dieu, il n'avait plus accès à rien. Et Jésus s'est approché de lui, il lui a dit, « Toi, suis-moi. » Matthieu a aussi rencontré le Jésus dont il a parlé lui-même en disant, « Cet homme-là, ce n'est pas un homme, C'est pas un guérisseur, c'est pas un grand personnage, c'est Dieu lui-même parmi les hommes, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et avec beaucoup de discrétion, Matthieu est en train de dire, ce Jésus-là, moi aussi je l'ai rencontré. Il s'est approché de moi dans mon salon, il m'a parlé dans mon cœur, il m'a parlé dans ma vie, et il m'a dit, hé, suis-moi. Et ce que Matthieu est en train de dire ici, c'est important. C'est que lorsque Jésus l'a appelé, il n'a pas commencé à dire, écoute, Seigneur, il faudrait que tu fasses la preuve, je ne sais pas, parce que tu sais, aujourd'hui, la science, et puis j'ai vu à la télévision que ce n'était pas vrai. Matthieu dit, il se leva et le suivit. Tout à l'heure, on parlait du christianisme, on en a parlé à la conférence précédente. On a parlé du christianisme, de sa valeur, de sa force. À quoi ça peut servir dans la vie d'un homme aujourd'hui? Est-ce que ça a une puissance, une efficacité quelconque? La seule puissance et la seule efficacité que le christianisme peut avoir, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un culte, ce n'est pas un credo, ce n'est pas un clocher en dessous duquel on va. La seule puissance du christianisme, c'est une personne. C'est la personne de Jésus que Matthieu a justement rencontré. Et quand il a compris qui il était, ce Jésus, il l'a suivi. Il n'a pas commencé à tourner autour, à aller chercher de la science, à aller chercher toutes sortes de choses. Quand il a compris, comme il essaie de nous le faire comprendre par son témoignage, qui est ce Jésus, il dit, il se leva et le suivit. Et je crois que le Jésus, le Christ du christianisme, j'allais dire le vrai Christ du christianisme, celui des Écritures, c'est celui qui nous invite de la même manière que Matthieu. Quand il nous a montré qui il est, quand il a montré qui il nous invite à le suivre et il s'attend à ce que ce ne soit pas une réponse intellectuelle, une réponse sophistiquée que nous fassions. Il s'attend à ce que nous le suivions parce que nous l'aimons. C'est là la grande différence. Mais Jésus n'a pas fini avec Matthieu. Parce que Matthieu l'a suivi. Et Jésus n'a pas fini avec Matthieu. Parce qu'il y a encore une série de trois miracles. La série suivante commence avec la résurrection de la fille de Jaïrus. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Une résurrection. Et cet homme vient voir Jésus, lui dit, écoute, ma fille est morte. C'est lui qui en fait le constat. D'ailleurs, tout le monde le sait, les pleureuses sont là, on paye des gens pour pleurer, pour faire beaucoup de bruit. On paye des musiciens pour jouer des musiques à vous faire pleurer. Il y a déjà là beaucoup de bruit pour exprimer son deuil. Tout le monde sait qu'elle est morte. Ce n'est pas du bluff. Jésus vient, il fait taire tout le monde et dit « Chut, taisez-vous. » Elle dort. Et vous voyez tous ces gens qui se mettent à rire, qui se roulent par terre de rire. Ils sont payés, ils ne sont pas tristes, ils pleurent. Ils sont payés pour. Jésus rentre. Il la prend par la main. Il dit, jeune fille, lève-toi. Et elle se lève. Vous imaginez la tête de ces gens quand la jeune fille sort avec Jésus? Il n'y a plus un seul qui rit là. Cet homme avait dit à Jésus, écoute, je sais qu'elle est morte. Mais voyez la foi de cet homme qui dit, viens, elle vivra. Cet homme était convaincu que ce Jésus était capable de lui rendre la vie. Ça veut dire que cet homme avait de Jésus une opinion bien précise. Pour lui, ce n'était pas un guérisseur, un faiseur de miracles ou de prodiges, un grand charlatan. Impose-lui les mains, elle vivra. Et cette fille a été ressuscitée. Le deuxième miracle de cette dernière série, c'est la guérison de deux aveugles. Où il est dit, là on est au chapitre 9, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus va tester la foi de ces gens-là, il ne va pas les guérir tout de suite. Et ils vont persévérer, ils vont l'ennuyer, ils vont le suivre, et finalement, avant qu'ils rentrent dans la maison où ils ne pourront pas le suivre, il dit, mais vous me demandez d'avoir pitié de vous et de vous guérir, vous croyez que je peux faire une chose pareille? Certainement, Seigneur. Vous croyez? Alors qu'il vous soit fait selon votre foi. Et ces deux hommes ouvrent leurs yeux et ils voient. Le dernier miracle, c'est la guérison d'un muet. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Dans cette troisième série de miracles, Matthieu est en train de dire autre chose sur Jésus. Il a déjà dit dans la première série que Jésus était celui qui allait s'approcher de tous ceux pour qui Dieu était inaccessible. Matthieu y compris. Dans la deuxième série de miracles, Matthieu est en train de dire, « Celui qui s'approche de vous, c'est Dieu lui-même venu en chair. Ce n'est pas un homme comme les autres. C'est Dieu venu parmi les hommes et qui est capable de vous donner son amour et son pardon. » Et Matthieu avait dit dans son témoignage, « Lorsque j'ai vu qui était Jésus, je l'ai suivi. Faites la même chose. » Mais Jésus n'a pas terminé, Jésus continue. Parce que le Jésus que Matthieu présente ici, c'est en fait le Jésus qui a le pouvoir de redonner la voix, de redonner la vue, de redonner la vie à ceux qui le suivent. Il ne va pas se borner à les guérir, à les pardonner et puis les lâcher dans la nature. Il veut les restaurer, les reconstruire, reconstruire leur vie. Pas simplement les sortir du pétrin maintenant, comme nous voudrions parfois qu'il en soit, parce que quand est-ce que nous prions Dieu avec beaucoup de force et de foi? C'est quand on est dans une situation difficile et on dit « Sors-moi de là, Seigneur !» Mais dans nos prières, c'est rare que nous allons inclure « Et à partir de dorénavant, sois présent dans ma vie !» Combien dans leurs prières voudraient dire à Dieu « Seigneur, sors-moi de là et puis laisse-moi après continuer mon chemin tout seul !» Jésus ne voit pas les choses comme ça. Jésus veut redonner la voix, la vue, la vie. Il veut restaurer ceux qu'il a pardonnés et ceux dont il s'est approché. Voilà le Christ que Matthieu nous présente. Voilà le Christ du christianisme qui nous invite à le suivre. Et Matthieu a donné son témoignage parce qu'il a dit ce Christ-là, c'est celui-là dont je veux. Je veux le suivre, je l'ai suivi, faites de même. L'histoire continue, et j'aimerais la continuer rapidement avec vous, parce que l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de la crèche jusqu'à la croix. Et dans Matthieu, comme dans les autres évangiles, les derniers moments de la vie de Jésus sont racontés avec de nombreux détails, tellement ils sont importants. Jésus avait préparé ses disciples à ça. Jésus le leur avait dit, et dans Marc au chapitre 8, il est dit « Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Jésus avait prévenu ses disciples. Il leur avait parlé, il leur avait expliqué. Ils ont eu beaucoup de mal à croire ça parce que dans leur esprit, le programme était autrement. Cependant, c'est ainsi que la chose s'est passée. Jésus a été arrêté. Jésus a été conduit vers les chefs du peuple. Et selon la prophétie d'Ésaïe qui disait qu'il a été mené comme un agneau à la boucherie, sans ouvrir la bouche, le texte nous raconte que Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Je n'ai pas mis la suite du texte. Mais la suite du texte nous dit que c'est à cause de ça que Jésus est mort. Il lui pose la question « Dis-nous si tu es le Christ. » Et il dit « Oui, tu l'as dit. » Et en plus de ça, celui que vous avez sous les yeux, vous le verrez à la droite du Père. Mais s'il est véritablement celui que Matthieu a présenté, moi je me réjouis de cette réponse. C'est le moment où on est prêt à se jeter à ses pieds. Ceux qui lui ont posé la question ne sont pas prêts à se jeter à ses pieds. Ceux qui lui ont posé la question disent « Ah ah, nous n'avons plus besoin de témoins maintenant qui racontent des histoires. Tu l'as dit toi-même à cause de ça. » C'est la croix. C'est dire à quel point Dieu est capable de nous être servi sur un plateau et on est capable, humain, de dire « un, dehors ». C'est ce qui va arriver dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qui va arriver avec le christianisme. Et je vous disais qu'il y a 2 christianismes. Le christianisme des hommes, le christianisme de Dieu. Il y a aussi le Christ que les hommes ont fait, il y a le Christ de la Bible. Et le Christ de la Bible, je ne suis pas sûr que le monde d'aujourd'hui est prêt à l'accepter non plus. Ainsi, on a emmené Jésus auprès du gouverneur romain. Pilate a reçu cet homme. Et après avoir discuté avec lui, il a dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Mais cet homme était faible. Et en réalité, il a donné Jésus pour être crucifié, non sans prononcer cette fameuse phrase qui est devenue célèbre, « Lavabo manum eas »« Je m'en lave les mains, c'est votre affaire. » Ainsi, le tribunal de Jésus est une immense farce. On l'a mis à mort, en fait, pour la raison pour laquelle il est venu. Il est venu comme Fils de Dieu, mais comme on n'a pas voulu le Fils de Dieu, on va le mettre sur la croix à cause de ça. Et c'est ainsi que Jésus va être mis à mort, sans que l'on ait vraiment quoi que ce soit de condamnable en lui. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Il est important de reconnaître, et Jésus l'a souligné pour ne pas que nous nous trompions, que la mort de Jésus n'est pas un meurtre. Ce n'est pas un assassinat. C'est un sacrifice. Jésus l'a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus n'est pas un homme que l'on a pris au piège, qui s'est fait prendre et qui a été mis à mort. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui s'est donné pour l'humanité. C'est un sacrifice, ce n'est pas un meurtre. Et c'est là la grosse différence. Parce que lorsque Jésus va être présenté par Jean-Baptiste, juste avant qu'il soit baptisé, et que Jean-Baptiste va le présenter à toute cette foule qui est là pour l'entendre, lui le prophète reconnu par le peuple, il va présenter Jésus, dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Or, pour un juif, quand on parle de l'agneau, c'est clair. Aujourd'hui, pour nous, peut-être pas, parce que nous ne faisons plus de sacrifices. Mais pour le juif, ou les sacrifices, qui comprenait que les sacrifices étaient faits chaque jour dans le temple, lorsque Jean dit « Voici l'agneau de Dieu », le message est clair. Celui vers qui tous les sacrifices pointent, celui que tous les sacrifices de l'Ancien Testament représentent, c'est celui-là qui est là et qui est venu et qui vient. Celui que vous avez, vers lequel vous avez tourné vos regards chaque fois que vous faisiez un sacrifice, il est là maintenant en personne. Il est l'agneau avec un grand A. Et il y a ici quelque chose d'extrêmement important qu'il faut retenir et comprendre. Lorsqu'un sacrifice était fait dans le temple, pour le péché, par exemple, l'homme qui avait apporté ce sacrifice imposait les mains à l'agneau. Et par ce geste, il indiquait qu'il transférait symboliquement son péché de lui-même à l'agneau qui allait être sacrifié.